Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de nos émissions. Mon nom est Amadou Ba, je suis historien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une grande personnalité afro-descendante de l'Amérique du Nord, du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable. Voici donc retracer l'histoire très peu connue d'un des plus grands afro-descendants en Amérique du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable, connu pour avoir été le fondateur de la ville de Chicago, aux États-Unis. Même si son héritage est encore visible dans la ville de Chicago, son histoire est très peu connue de l'opinion publique américaine et même mondiale. Nous avons donc jugé nécessaire de revenir sur cette histoire. Nous commençons par dire que il s'agit là d'une histoire dont l'héritage est visible, mais dont l'histoire est complètement oubliée. On rappelle qu'avant que le conseil municipal de la ville de Chicago ne vote une loi pour renommer une place publique très connue à travers le Lakeshore Drive en juin 2021, en reconnaissance donc de Jean-Baptiste Pointe du Sable, il y avait aussi d'autres endroits qui portaient déjà son nom. Par exemple, au lycée, il y avait aussi un buste statuaire extérieur et un musée qui s'intitule Musée du Sable, un musée d'histoire afro-américaine qui se trouve exactement dans le sud de la ville de Chicago. Et récemment, la ville de Chicago a officiellement reconnu du sable comme son premier colon permanent non autochtone. Mais son histoire n'est pas du tout connue par l'opinion publique de Chicago, de l'État, mais aussi des États-Unis et ailleurs dans le monde. À tel point que nous avons donc jugé nécessaire d'en parler aujourd'hui. Qui est-il réellement? Alors, certains parlent d'un entrepreneur et d'un explorateur. Pour sa biographie, on dit qu'il est né d'un père français, donc originaire de la France, et d'une mère africaine esclave à Saint-Marc, Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, vers 1745. On n'a pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse. Mais on sait qu'entre 1769, donc entre ses 14 et 15 ans, il fit naufrage alors qu'il se rendait à la Nouvelle-Orléans avec son ami Jacques Clay Morgan et il séjourna dans cette région. Il fait partie de ces gens qui se sont spécialisés dans le commerce des fourrures, notamment lui, il était vu comme un grand entrepreneur, toujours à la recherche d'opportunités pour poursuivre son activité commerciale. Du Sable a travaillé vers le nord depuis la Nouvelle-Orléans et il a déménagé à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi son arrivée à la Nouvelle-Orléans. Il a aussi noué des relations très solides au sein de plusieurs communautés autochtones amérindiennes de la région des Grands Lacs et a finalement été encadré par une grande personnalité connue à Pontiac, hein, qui fait partie des grands explorateurs qui ont marqué l'histoire de l'Europe, notamment de la France dans cette région, mais aussi de Obwandi Yenag, un des chefs de tribu des Grands Lacs. Hein, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Obwandi Yenag, chef de plusieurs tribus des Grands Lacs. Donc, les Grands Lacs, c'est vraiment la région comprise entre ces, comme son nom le désigne, les Grands Lacs, Lac Ontario, Michigan, Huron, Erie, et puis voilà, toute cette région à cheval entre le Canada et les États-Unis. Du sable joue aussi un rôle déterminant dans la négociation et la préservation de la paix entre plusieurs peuples autochtones. Après la guerre qui a opposé ce peuple avec les Européens, notamment avec Pontiac. En 1778, alors qu'il a 23-24 ans, Du Sable était établi dans la région qui allait devenir l'actuel Chicago. Et cette année-là, il épousa une femme autochtone du nom de Kitty Hawa, une femme Potawatomi. Qui est baptisé après avoir été converti au christianisme sous le nom de Catherine. Le couple s'était installé près d'un endroit que les Potawatomi appelaient Eschecago, sur la rivière nord de la rivière Chicago, à sa jonction avec le lac Michigan. Ils ont eu deux enfants, à savoir donc Jean-Baptiste Poin du Salle Junior, et puis une fille qui s'appelle Suzanne. Même si Du Sable n'a pas été le premier à traverser, le premier explorateur, certaines sources parlent de commerçants à traverser la région, il a sans aucun doute été un des premiers non-autochtones à y rester et à y établir un poste permanent. Il faut rappeler aussi que dans l'exploration des fourrures, il y avait des personnalités d'origine africaine. Moi, dans mes recherches sur l'histoire des Noirs au Canada, je parle d'une famille Bonga, à savoir Étienne Bonga et son fils qui ont été dans cette région aussi, allant vers le Canada, qui ont prospéré dans le commerce des fourrures, hein, qui était vraiment une des grandes entreprises. J'ai aussi parlé de James Douglas, hein, le premier maire de la ville de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique, qui, avant de se lancer dans la politique, a été dans les fourrures, était un grand entrepreneur qui s'était vraiment enrichi. Lui aussi, Douglas, son père est écossais, sa mère est une femme de la Guyane, une femme noire. De la même façon aussi que Du Sable ici. Son domaine comprenait à terme une maison de taille modeste et un moulin à chevaux, un fournis, une laiterie, un fumoir, un poulailler, un atelier, une écurie et une grange. En général, des conditions quand même qui étaient acceptables. Du Sable est souvent décrit comme un commerçant de fourrures. Mais d'après les historiens, ou en tout cas les personnes qui sont intéressées à son parcours et à son histoire, il était beaucoup plus que cela. Hein. Par exemple, Esther Cantave, qui est le président de Du Sable Heritage Association, basée aux États-Unis, lui, il pense que le terme commerçant de fourrures ne s'applique pas. Il s'agit beaucoup plus de cela. Et c'était un entrepreneur et qui avait des activités commerciales très complexes et très lucratives. Cantave ajoute même que Du Sable avait un tel sens des affaires qu'il avait profité de toutes les possibilités économiques que la région avait offertes et elle les a ensuite présentées d'une manière qui servait sa communauté, qui servait aussi à, bon, comment on peut le dire, ses partenaires et qui développait aussi non seulement la ville aussi, mais pas seulement la ville de Chicago, mais tout le Midwest finalement. Hein. C'était vraiment une activité assez intéressante. Citoyen naturalisé des Potawatomi, Kitawa, l'épouse de Du Sable aussi a joué un rôle clé dans l'établissement des relations entre les communautés autochtones. Donc, c'est une citoyenne qui a été aussi très, très intéressante et très active dans la vie de Du Sable. Grâce à leur mariage, Du Sable est devenu un parent des peuples autochtones. Donc des Potawatomi, et ceci a renforcé ainsi un héritage multiculturel et un rapprochement entre eux. D'ailleurs, beaucoup de personnes le considèrent Du Sable comme un autochtone, Bon, d'abord parce qu'il est quand même ici d'un père européen et d'une mère africaine, donc il est métisse, donc son teint le fait parfois confondre aux autochtones, mais aussi à raison de son mérite et de sa proximité. Certaines personnalités comme Andrea Carlson, qui est un artiste Ojibwe par exemple, et qui ne connaissait pas vraiment beaucoup l'histoire du sable, lorsqu'elle a commencé à s'intéresser à son histoire à partir de 2016, a découvert et a avoué qu'en Mozambique, elle apprenait davantage l'histoire du sable et de Kitihawa. Il semblait que donc leur histoire était racontée avec une lentille non autochtone. Ça veut dire que c'est une histoire donc qui était tantôt marginalisée, tantôt falsifiée un peu. Et pour comprendre comment du sable est devenu un parent ou famille des Potawatomi, Carlson Andrea donc a déclaré qu'il fallait d'abord comprendre le concept de parenté autochtone. Elle travaille beaucoup sur les clans, les trucs autochtones. Elle fait comprendre que à la fois les Ojibwe et les Potawatomi font partie d'un grand groupe qu'on appelle les Anishinaabe. Et les Anishinaabe, ils sont pas seulement aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs la majorité, ils sont au Canada. Moi, présentement, je suis dans le nord de l'Ontario, dans la région de Sturgeon Falls, dans l'ouest de Nipissing. C'est un territoire Anishinaabe, par exemple. Ici, les peuples Nipissing font partie du grand groupe Anishinaabe. Vous voyez donc, c'est extrêmement large. Le système n'était pas initialement basé sur le quantum sanguin, rappelle Andrea Carlson, qui dit que c'est une invasion coloniale, cette affaire de diviser les groupes-là. Au lieu de cela, donc, Carlson pense que les relations étaient basées sur l'adoption naturelle, etc. Et les gens sont devenus naturalisés grâce à leur acceptation par la nation autochtone. Il faut rappeler également que le terme citoyen naturalisé que certains utilisent en référence à du sable en disant que c'est un citoyen naturalisé non autochtone du peuple Potawatomi, il est important de voir en termes de citoyenneté du peuple Potawatomi de cette nation et l'état du colonisateur. Donc c'était vraiment des différenciations, mais que du sable était considéré comme un membre à part entière de cette communauté-là. Et il avait une relation familiale aussi assez intéressante avec ce peuple-là. Et il est une figure très très importante pour les autochtones. Eux, ils le considèrent comme une des grandes figures autochtones, même s'il est très peu connu par la communauté afro-descendante ou afro-américaine. Les peuples autochtones en général, ils connaissent un peu mieux que son histoire. Du sable a laissé vraiment un héritage intéressant. On sait que déjà en mai 1800, du sable avait vendu toutes ses propriétés à Chicago et il avait fini par quitter la région et il avait déménagé à une ville qui s'appelle Peoria, dans l'Illinois, afin de prendre sa retraite dans la région de Peoria, mais dans une petite ville qui s'appelle Saint-Charles. Mais Saint-Charles se trouve dans le Missouri, en fait. C'est là où il va prendre sa retraite. Et il va décéder également à Saint-Charles en 1818, précisément le 28 août. Et son héritage est vraiment riche en multiculturalisme et en innovation. C'est un héritage qui trouve écho d'ailleurs aujourd'hui dans des recherches d'historiens. Par exemple, une historienne du nom de Courtney Joseph, titulaire d'un doctorat en ce moment, fait beaucoup de recherches sur la vie du sable et dans le but d'écrire un livre sur ce dernier. Et l'héritage est vraiment important car il rappelle les racines aussi afro-descendantes et autochtones des peuples donc du sable, et montre à quel point également il y avait une entente entre les afro-descendants et les autochtones, même si parfois on peut étiqueter les Africains n'étaient pas trop acceptés par les peuples autochtones. Il y a beaucoup de cas de mariage et d'acceptation entre ces deux communautés-là. Donc là aussi, nous avons une confirmation à travers l'histoire de Dissab. Donc, pour honorer ces racines africaines autochtones de Chicago aussi, il y a eu des artistes afro-descendants et autochtones de la ville de Chicago, hein, comme par exemple Chris Papan, Kenza Lakota et Monica Richter-Bolter, dont le groupe s'intitule Potawatomi Afro-Américain et Allemand. Ils ont collaboré à une œuvre intitulée Founders en 2019. Il s'agit là d'une sculpture gonflable qui présente quatre bustes face aux quatre points cardinaux. La forme est un mélange d'interprétations et d'objets de collection du sable, Museum African American History et du Field Museum, ainsi que d'interprétations de divers personnages historiques. Et ici, donc, ils ont créé donc, des bustes qui font référence à Disable, à Kitihawa, et au premier maire afro-américain de la ville de Chicago, Harold Washington, mais aussi un buste d'un jeune garçon de l'artiste William Hartis, qui est un afro-descendant également. Donc, le motif du monument gonflable s'inspire aussi des textiles, Potawatomi, des collections, etc. Donc, il montre à tel point la culture des peuples autochtones également été riche. On voit ça à travers leur œuvre. Les Founders également font partie d'un mouvement plus large visant à récupérer le récit du Disable et Kitihawa. Ils ont construit ensemble la première colonie, entreprise, famille et réseau prospère à Chicago. Et leur histoire a été écrite en raison de la manière dont l'histoire des États-Unis a réduit au silence l'existence de personnages de couleur sans parler de leur contribution. Et ça, c'est fréquent dans l'histoire des afro-descendants et même des autres peuples autochtones, très absentes ou minimisées, où les grandes contributions sont absentes. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les contributions militaires des afro-canadiens, par exemple. J'ai du mal à faire comprendre à beaucoup que dès la guerre de 1812 et même bien avant, qu'il y avait des soldats noirs dans les armées canadiennes, et que même pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, certains sont allés au front, mais l'imaginaire populaire veut toujours me contredire en disant non, les Noirs n'ont jamais été soldats ici. Ils ont été dans le bataillon de construction de 1916, créé à Halifax, par exemple. Vous voyez, c'est très difficile. Alors que dans l'histoire, on voit autre chose dans les recherches. Donc, c'est vraiment certains aspects très réducteurs qui sont présentés au public, popularisés, et d'autres ne le sont pas. Et ils ont aussi construit ensemble la première colonie, entreprise, comme j'ai dit, et en récupérant donc et en commémorant l'héritage. Leur héritage, nous pouvons également voir la richesse de l'histoire et le multiculturalisme dans des villes comme Chicago, où des peuples pouvaient vivre et prospérer ensemble. C'est ça que nous apprend cette belle histoire de Disable, depuis son origine, sa famille, les fourrures dont il était un entrepreneur, etc., etc. Une très belle histoire, donc, que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, en espérant qu'on se retrouve bientôt pour une autre émission consacrée à une grande personnalité ou à d'autres sujets qui nous intéressent. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine fois. Au revoir.